journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Payer les factures, faire ses courses, partir en vacances, vous êtes de plus en plus nombreux à compter vos sous et à choisir vos priorités. Le pouvoir d'achat, c'est notre préoccupation numéro un. Le gouvernement planche sur un projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Projet auquel le journal Les Échos a eu accès. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes la chef du service économie d'Europe 1. Quelles sont les premières pistes avancées dans ce texte ?
Alors, tout d'abord sur les minima sociaux, ils seront bien revalorisés comme prévu au 1er juillet, vendredi prochain, donc de 4% selon les Échos, alors que l'inflation pourrait atteindre 6,8% en septembre selon l'INSEE. Cela concerne les pensions de retraite, mais également les allocations familiales, le RSA, les allocations de Pôle emploi ou bien encore la prime d'activité, une mesure qui devrait coûter plus de 7 milliards d'euros. Le point d'indice sera bien revalorisé également pour les fonctionnaires. Concernant le SMIC, le gouvernement veut se donner plus de pouvoir pour contraindre les branches à revaloriser les grilles de salaire qui restent sous le minimum légal. Par contre, plus de chèques alimentaires à ce stade. La mise en place serait trop complexe. À la place, un chèque inflation de 100 ou 150 euros pourrait être versé aux plus modestes. Un chèque qui ne devrait pas être soutenu par LR et le Rassemblement national à l'Assemblée qui y voit une mesure d'assistanat.
Alors voilà pour la partie revenus. L'inflation, on le voit aussi des conséquences sur les loyers. Et bien là aussi, le gouvernement veut agir rapidement, Carole.
Oui, avec un dispositif appelé le bouclier logement. Alors, il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera bien plafonnée à 3,5% pendant un an. Le gouvernement dit vouloir protéger les propriétaires les plus modestes. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% au 1er juillet. Certaines associations estiment d'ores et déjà ce montant insuffisant.
Le pouvoir d'achat, ce sont aussi les énergies, Carole. Les dispositifs actuels vont être prolongés.
Alors, le gouvernement avait déjà annoncé le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité jusqu'à la fin de l'année. Prolongement également jusqu'à fin août de la ristourne de 15 à 18 centimes sur chaque litre de carburant. À la rentrée, une mesure spécifique d'aide prendra bien le relais pour les gros rouleurs. La nouveauté, c'est l'appel au rationnement lancé ce week-end par les trois grands patrons de l'énergie, Engie, EDF et Total. La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas, ont-ils expliqué dans une tribune au JDD, prônant une nécessaire sobriété d'exception pour éviter des blackouts l'hiver prochain.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Et dans ce contexte, notez que la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle devrait bien redémarrer l'hiver prochain. Confirmation du ministère de la Transition énergétique.
Alors en attendant ces mesures, la colère gronde ce matin.
Oui, les chauffeurs routiers mobilisés un peu partout en France. 5 syndicats appellent à la grève aujourd'hui pour réclamer une hausse des salaires. On rejoint Guillaume Dominguez à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Bonjour Guillaume.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes dans la zone industrielle du parc de Chanteloup, l'un des points de rassemblement des grévistes. Déjà près de 80 manifestants sur place. Sur place où la colère se fait sentir clairement ce matin, Guillaume.
Et oui, ce qui se traduit ici, c'est le ras-le-bol de la profession. Tous dénoncent des salaires et des conditions de travail qui ne leur permettent pas de vivre correctement. À l'image de Mohamed, il a 47 ans, il est père de famille, il vit en banlieue de Paris. Et avec l'augmentation des prix, les fins de mois pour lui sont de plus en plus difficiles.
1700 euros, 1600 euros, on ne peut rien faire avec ça. Le gaz, il est à 400 euros par mois presque. C'est 1000 euros de loyer. Donc entre le chauffage, l'essence, c'est pareil. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas.
Et pour vivre correctement, Mohamed estime qu'il lui faudrait au moins 2200 euros par mois, soit une augmentation de 40% de son salaire actuel. Dans sa branche, les récentes négociations avec la direction ne lui promettent que 6%. Mohamed est donc prêt à poursuivre le mouvement.
Il faut sortir les muscles, on l'a déjà fait il y a des années, on va le refaire encore et ça ne dérange pas. On est au bout du rouleau, je me lève le matin à 4h du matin jusqu'à 18h le soir. Pour 1700 balles, non. Et on risque la vie des gens, on risque nos vies, le permis, on risque tout ce qui en suit derrière. On ne peut pas continuer comme ça.
Et plusieurs grévistes m'ont dit ici être prêts à bloquer de nouveau le marché de Rungis s'ils ne sont pas entendus aujourd'hui.
Merci Guillaume Dominguez en direct du parc de Chanteloup à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne pour Europe 1.
Alors c'est dans ce contexte d'urgence pour les Français qu'Elisabeth Borne va tenter d'élargir sa majorité à l'Assemblée nationale.
Oui, la première ministre démarre aujourd'hui une série de discussions avec les oppositions. Objectif, débloquer la situation politique, donner une feuille de route au pays et former un nouveau gouvernement d'ici la semaine prochaine. Mais ce sera assurément sans le RN et LFI. Emmanuel Macron leur a déjà fermé la porte.
En revanche, Victor Chabert, le camp présidentiel pourra peut-être s'appuyer sur un tout nouveau groupe en train de se constituer. Son nom utile avec un S, acronyme d'Ultramarin, Territoire, Insularité, Liberté, Égalité et Solidarité.
Oui, composé de membres de l'ancien groupe Libertés et Territoires, de dissidents socialistes, mais aussi de députés de Corse ou d'Outre-mer, ce nouveau groupe pourrait naître aujourd'hui sur une ligne constructive de centre-gauche. Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime, fait partie de ceux qui sont à la manœuvre.
La gauche, c'est, je crois, une capacité à pouvoir travailler sur le fond, à pouvoir poser des lignes rouges et à dire au gouvernement, comme à dire aux Français, eh bien, nous ne voulons pas bloquer le pays, nous ne voulons pas bloquer les institutions. Soyez à l'écoute de ce que nous avons à dire. Je crois que c'est la noblesse du rôle de parlementaire.
Plusieurs questions restent à trancher en interne sur l'organisation du groupe, mais la règle devrait être la liberté de vote. Selon les textes, le gouvernement pourrait donc compter sur les 15 à 17 voix de ses députés, et peut-être même plus. Un futur membre prédit qu'il pourrait s'agrandir au cours de la mandature, notamment si des socialistes claquaient la porte de la NUPES.
Victor Chabert du service politique d'Europe.
8h07 dans l'actualité judiciaire maintenant, le procès du meurtrier présumé de Sophie Le Tan s'ouvre ce matin à Strasbourg, 4 ans après les faits.
C'était le 7 septembre 2018, jour de ses 20 ans. Elle avait rendez-vous avec Jean-Marc Reiser pour visiter son appartement près de Strasbourg. Le corps en morceaux de la jeune fille ne sera découvert qu'un an plus tard dans une forêt de la région. Jean-Marc Reiser est poursuivi pour assassinat. Il assure cependant que son crime n'était pas prémédité et ce sera justement tout l'enjeu de ce procès, Mélina Fachin.
Après avoir farouchement nié toute implication dans la mort de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser finit par avouer le meurtre au bout de 2 ans et demi. Mais il nie toute préméditation. Ce sera l'enjeu de ce procès pour l'un de ses avocats, Pierre Jouriato.
Ce décès provient de violences qui ont dépassé le but initial, qui n'était pas de tuer. Ses émotions ont pris le dessus suite à quelque chose que je qualifierais de rejet, qui a été interprété comme tel par lui. Et ce qu'on va solliciter, effectivement, c'est une requalification en coup mortel, en violence et entraîner la mort sans intention de la donner.
La famille de Sophie Le Tan, elle, en est persuadée. Il a tout planifié et a piégé la jeune fille en la tirant dans son appartement. Gérard Welzer, leur avocat.
Jean-Marc Reiser n'a cessé, depuis le départ, de mentir. Pour lui, c'est un accident. Donc c'est un nouveau mensonge qui injurie et qui ajoute à la peine de la famille. Il est poursuivi pour assassinat et on veut savoir ce qui s'est passé.
À 61 ans, Jean-Marc Reiser a déjà passé près d'un tiers de sa vie en prison, notamment pour viol. Cette fois-ci, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Un mot de sport pour terminer ce journal. Wimbledon ouvre aujourd'hui pour le gratin du tennis mondial. Enfin, ouais, commence plutôt couvrir.
Oui, c'est ça. Troisième grand chelem de la saison sur fond de polémique, il faut le noter. Cette année à Londres, il n'y a pas de joueurs russes ou biélorusses bannis à cause de la guerre en Ukraine. Décision contestée par les instances du tennis qui ont décidé de ne pas attribuer de points aux participants. Pas de quoi rendre Wimbledon moins attrayant pour autant. Au menu, l'éternel duel entre Djokovic et Nadal. Et puis pour le premier tour, on suivra l'entrée en liste du Norvégien Casper Ruud, finaliste de Roland-Garros face à l'Espagnol Albert Ramos Vignolas.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loire et président du groupe LR à l'Assemblée, est l'invité de ce Sonia Mabrouk.